Ça va bien? Oui, excellent. Juste le micro un peu. Bon. Donc ce matin, on va continuer, comme Marc a mentionné, notre série sur la croix. Une série de 8 messages. On est rendu au 3e message. Et ce matin, on va répondre à une question. Dans le premier message, on a vu la centralité de la croix. Comment la croix est centrale, elle se tient au milieu de l'histoire du monde. Et aussi comment aujourd'hui, la croix est attaquée. Mais pas de l'extérieur. Souvent, c'est de l'intérieur par les prédicateurs qui prêchent maintenant une fausse croix. Dans le deuxième message, on a vu pourquoi Jésus devait mourir. Je ne sais pas si vous en rappelez, dans le jardin, 3 fois, le Seigneur Jésus revenait à son père et dit « Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et son père devait lui dire « Non, mon fils, il faut que tu boives la coupe. » Pourquoi? Parce que Dieu est 3 fois saint et on est pécheur. Son père ne pouvait pas, Christ devait mourir. Ce matin, on va répondre à une autre question. Qui a tué Jésus? On va le voir. La réponse, c'est proche de ça, mais c'est... Pourquoi on se rend là? Qui est responsable du supplice de la croix? J'aimerais qu'on tourne dans nos Bibles, dans Matthieu 27. Où Matthieu nous décrit la passion de Christ. Les derniers instants de Christ vers la croix. Je vais vous lire dans la version du Sommeur. Donc Matthieu 27, à partir du verset 27 jusqu'à 36, nous dit ceci. Ou 26. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouette, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Imaginez la scène, hein? On l'amène à l'intérieur du palais et toute la cohorte se met autour du Christ. Il est seul. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant d'un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs! » Ils crachèrent sur lui. Et prenant le roseau, il le frappait à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Et ici, ce n'est pas par compassion que les Romains ont demandé à Simon de Cyrène de porter la croix de Christ. C'est parce que Christ est exténué, il n'était plus capable. Il lui fait porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé avec du fiel, mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, puis ils s'assirent pour monter la garde. Les dernières heures du Seigneur Jésus. Pourquoi Christ se retrouve sur la croix? Bon, voyez-vous, pour les dirigeants juifs, Christ est accusé d'avoir blasphémé. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Pour les Romains, il est accusé de sédition pour avoir dit qu'il était roi. Mais les deux choses que Christ a dit étaient vraies. Christ était vraiment Dieu et roi. Mais plutôt que d'écouter la bonne nouvelle que Christ avait à dire, on a décidé de s'en débarrasser. C'était plus simple. Qui est le vrai responsable de la mort de Christ? Bonne question, hein? Qui est responsable? J'aimerais qu'on fasse une enquête ensemble ce matin. Plutôt que d'arriver à la conclusion, on va faire une enquête. On va jouer au Colombo. Quelque chose que mon épouse aime beaucoup, on écoute à toutes les semaines. Premièrement, est-ce que ce serait possible que ce serait un ami fidèle du Seigneur Jésus? Judas, l'un des 12, son ami. On va tourner dans Matthieu 26, à partir du verset 46. Jésus vient de finir la prière qu'on a vue dans le dernier message. Et ensuite, Christ dit à ses disciples, « Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyées par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'étant approché de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus tendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Il lui emporta l'oreille. Imaginez, quel hypocrite. Il livre Jésus avec un baiser. Et un baiser, c'est quoi? Un signe de quoi, normalement? De tendresse, d'amour, d'affection. Et c'est ça que Judas utilise pour livrer son maître. Imaginez. Comment Christ aurait dû être attristé de voir ça? Son propre ami qui le livre avec un baiser. Imaginez, il faut se mettre dans le contexte. Judas a vu Christ nourrir des foules. Judas a vu des hommes, des femmes malades être guéris. Judas a vu Jésus marcher sur la mer. Et combien d'autres miracles? Mais surtout, Judas a eu le privilège d'entendre le meilleur prédicateur que la terre a jamais porté. Imaginez. Pendant 3 ans, ils ont entendu le maître parler du royaume de Dieu. Voyez-vous, dans le passé, quand les prophètes parlaient, ils parlaient au nom de Dieu. Mais quand Christ est venu, c'est Dieu qui parlait. Hébreux 1 nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Imaginez-vous Judas, qui a tout vu ça, qui a tout entendu, et livre Christ avec un baiser. Mais pas juste ça. Et il le livre pour 30 pièces d'argent. Savez-vous ce que ça représentait, 30 pièces d'argent? Le prix pour acheter un esclave. Tu achetais un esclave pour 30 pièces d'argent. Il a acheté le Seigneur Jésus pour des peanuts. l'idole de Judas? L'argent. C'est une chose de prendre l'argent dans la bourse pour les vols, pour qui devrait aller pour les pauvres. Mais vendre son sauveur pour 30 pièces d'argent, quelle honte. Et en plus, avec un baiser. Pas pour rien que Jacques dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais c'est une autre chose que Judas me montre aussi. Combien le salut, c'est un miracle et une grâce. Pas pour rien, Christ a dit, « Vous ne pouvez venir à moi si mon Père ne vous appelle. » Et Judas est l'exemple parfait de ça. Il a tout vu, il a tout entendu, et il n'a rien compris. Matthieu 13, 14 nous dit ceci. « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous verrez de vos yeux et vous ne verrez rien. » Judas est l'exemple parfait de cette réalité-là. Donc, c'est peut-être Judas qui est coupable. Oui, mais Judas, dans le fond, il a juste vendu Jésus aux Juifs. C'est pas lui qui l'a crucifié. Donc, c'est peut-être les Juifs qui sont responsables. Peut-être. On va reculer un petit peu, Matthieu 26, 1 à 4. Guy n'est pas d'accord avec moi depuis tantôt, il fait non. Hein, Guy, t'es pas d'accord avec moi? T'es pas d'accord avec moi? Matthieu 26, 1 à 4 nous dit, « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, » et on sait que dans Matthieu, Jésus va prêcher plusieurs discours. Hein, le premier, le sermon sur la montagne, il y a plusieurs discours. Là, dans son dernier discours, quand il a eu fini, Jésus dit ceci, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. » Donc, c'est possiblement les chefs juifs qui sont responsables de la mort de Christ. Pourtant, ces hommes-là connaissaient l'Ancien Testament. Ils auraient dû reconnaître Christ. Tout ce que Christ a dit, tout ce que Christ a fait, c'était tellement clair. Mais ces hommes-là aussi avaient deux idoles dans leur vie. La jalousie et l'orgueil. Ils étaient jaloux, ils étaient orgueilleux. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Seigneur Jésus les a traités d'hypocrites, de menteurs, de fils du diable. C'est pur blanchi et combien d'autres choses? Voici leur réaction. Un procès injuste et illégal. Et je vais vous montrer pourquoi c'était injuste et illégal. Matthieu 26, verset 57. On sait que ça se passe le soir. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. C'est le soir. Comment on le sait? Parce que 27.1 nous dit, « Dès que le matin fut venu, tous les saints principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. On l'a fait arrêter durant la nuit, et on a fait son procès durant la nuit au Seigneur Jésus. Pourtant, le Talmud, qui est un ensemble de lois juives, nous dit ceci. Il est interdit aux Sanhédrin de se rassembler entre le soleil couchant et le soleil levant, ni avant l'offrande du matin. Et aucun accusé ne devrait être rencontré d'une manière privée ou secrète. Tout doit être fait en public. Qu'est-ce que le Sanhédrin a fait? Qui était la cour suprême en Israël? Exactement le contraire. De nuit, en privé. Matthieu 26, 59. les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, c'est les chefs du peuple, regardez ce qu'ils font, cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisamment pour le faire mourir. Même le mensonge est correct. Pourquoi? Parce que pour les Romains, quelqu'un qui a blasphémé, c'est pas assez pour le faire crucifier. Donc, il faut trouver quelque chose de plus grave. C'est fort, hein? C'est les chefs du peuple. Mais plus que ça, 26 à partir du verset 63. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble. » Il répondit, « Il mérite la mort. » Complètement contre la loi juive. Parce que selon la loi juive, un homme ne pouvait jamais être condamné le jour où il passait en cour. Il fallait jeûner pendant 24 heures. Et pendant 24 heures, attendre pour voir s'il y aurait eu d'autres témoins qui seraient venus pour prouver que cet homme-là était coupable. Christ, tout de suite, on le condamne. Il mérite la mort. On a tout fait exactement le contraire de ce que la loi juive enseignait. On voulait se débarrasser de Christ. Il n'est pas étonnant que les Juifs, les chefs juifs, ont demandé ce que Barabbas soit relâché. Imaginez, quelques jours avant, Jésus rentre dans la ville, son entrée triomphale, et on crie « Hosanna au fils de David, gloire à Dieu! » Deux jours après, on crie quoi? « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le! » C'est la même foule! Imaginez. Donc, le coupable, c'est probablement le peuple juif sous l'influence de leurs dirigeants. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit dans Acte 3. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus-Christ, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Donc, qu'est-ce que Pierre nous dit? C'est eux autres les responsables. Vous l'avez fait mourir. Guy n'est pas d'accord encore avec moi. Mais ce n'est pas eux qui ont jugé Christ. Eux l'ont juste emmené jusqu'à Pilate. Donc peut-être que c'est Pilate le responsable. Possiblement. Luc 23, 1 à 4. Donc après avoir délibéré faussement, après avoir accusé Jésus, l'avoir trouvé coupable, même s'il n'avait pas le droit. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et disant lui-même, Christ roi. » Pilate interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Regardez la réponse de Pilate. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Ça aurait dû finir drette là. Il était l'autorité suprême. Et il dit, drette là, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » C'est fini. Et c'est ça que l'histoire nous dit? Non. Non. Puis là où tu as trouvé une idée, il dit, je vais me débarrasser du problème, je vais l'envoyer à mon chum Hérode. C'est lui qui est le gouverneur de la Galilée. Fait que je vais y passer le problème. Mais regardez ce qui se passe après qu'il est allé voir Hérode. Au verset 14. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune chose dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. C'est fort, hein? Ça fait deux fois qu'il dit, il n'a rien fait de mal, cet homme-là. Mais ce n'est pas fini. Regardez au verset 20 à 23. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grand prix, demandant qu'il soit crucifié. Et leur cri l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. C'est fort, hein? Trois fois, il a dit, « Je ne trouve rien de mal en cet homme. Hérode non plus. » Pourtant, il condamne Christ à la mort. Trois fois. Donc, c'est probablement Pilate qui est responsable de la mort de Christ. Dis pas non, je te check. Voyez-vous, Pilate avait aussi deux idoles dans sa vie. Ces deux idoles, l'amour du pouvoir et la peur des hommes. La parole de Dieu nous dit ceci. Maudit soit celui qui répand le sang innocent. Le psaume 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Voyez-vous, pour Pilate, son honneur et son ambition l'ont emporté sur la vérité. Et ici, j'aimerais vous encourager à quelque chose. Priez pour ceux qui vous dirigent. Parce que ceux qui dirigent ne sont pas sous l'abri du pouvoir et de la peur des hommes. On peut avoir peur des hommes. Priez pour ceux qui vous dirigent, pour qu'ils marchent selon la vérité de la parole de Dieu. Et des fois, il y a un coût à ça. Et Pilate n'était pas prêt à payer ce coût-là. Donc, il y a plusieurs personnes impliquées. Qui est coupable? Judas, pour avoir vendu Jésus. Les Juifs pour l'avoir emmené à Pilate. Pilate pour l'avoir condamné, même s'il n'était pas coupable. Les soldats. Eux l'ont battu et c'est eux qui l'ont crucifié. Mais savez-vous, dans le fond, sont tous coupables. Ils sont tous coupables. Mais il y a un autre responsable. Là, tu peux dire oui, Guy. Est-ce qu'on est différent d'eux? Si on était là, le matin de la crucifixion, est-ce qu'on aurait crié, « Crucifie-le! Qu'on s'en débarrasse! » On était écœurés qu'il nous conte sa belle histoire. On aurait eu la même réaction que chacun de ceux qui étaient là. J'ai trouvé un vieux cantique qui parle de notre histoire qui dit ceci. C'est moi qui ai fait couler le sang sacré. Je l'ai cloué au bois. J'ai crucifié le Christ de Dieu. Je me suis joint aux moqueries. Au milieu des cris de la foule, Je sens que je suis seul. Dans ces voies rudes, je reconnais ma voix. Autour de la croix, je vois la foule. Il me semble que j'entends ma voix seule se moquer de celui qui souffre. On aurait tout dit, crucifie-le. Et c'est seulement quand on est conscient et qu'on reconnaît qu'on est aussi coupable que ceux qui étaient là le jour de la crucifixion de Christ, que la croix prend toute sa valeur. Voyez-vous, chacun de nous, on a des idoles dans nos vies. Pour certains, c'est l'amour de l'argent comme Judas. D'autres, la jalousie, l'hypocrisie, la peur des hommes, le désir du pouvoir, le désir d'être honoré. Chacun de nous, on est coupable. Et il est facile de se laver les mains comme Pilate puis de dire « Moi, je ne suis pas coupable! » Mais plus tard, dans la série, on va regarder un message sur Isaïe 53. Isaïe 53 nous dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pour nos péchés qu'il a été meurtri. Brisé pour nos iniquités. » Voyez-vous, on entend souvent que la croix, c'est pour nous. Christ est mort pour nous racheter, pour nous approcher de Dieu. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas juste pour nous. La croix, c'est aussi à cause de nous. C'est à cause de nous. L'apôtre Pierre nous dit ceci dans 1 Pierre 2:24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'en mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dans Acte 3, comme on a lu tantôt. Vous avez renié le sien et le juste et vous avez fait mourir le prince de la vie. Donc Judas, les Juifs, Pilate, les soldats romains ne sont pas les seuls coupables. On est coupables un matin aussi. Et c'est pour ça qu'il faut dire merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix, parce que s'il n'y aurait pas de croix, on serait fait à l'os ce matin. Parce qu'on est aussi coupables. Vois-tu, si tu n'avais jamais péché, si j'avais jamais péché, Christ n'aurait pas eu besoin de quitter son ciel. Il n'aurait pas eu besoin de devenir un homme, marcher une vie parfaite, être battu, meurtri, mourir sur une croix, ressusciter le troisième jour. Christ n'aurait pas eu besoin de faire rien de ça si on était parfait ce matin. On est tous pécheurs. Oui, les Juifs. Oui, Judas. Oui, Pilate. Ils l'ont emmené de plus en plus proche de la croix. Mais c'est mes péchés et tes péchés qui l'ont crucifié. Dieu haït le péché. Et je pense que je l'ai dit dans un message. J'ai entendu quelqu'un qui, ça m'a frappé. Dieu haït tellement le péché qu'il a préféré voir son fils mourir que voir le péché vivre. C'est fort. Dieu a préféré voir son fils mourir que voir le péché vivre. Et je ne vous dis pas ça ce matin pour que vous sentiez coupable, mais pour vous réjouir de la grâce de Christ, si vous êtes en Christ ce matin. Et si vous ne l'êtes pas, courez vers la croix. Tombez au pied de la croix. Mais vous allez peut-être me dire, moi, Daniel, c'est vrai tout ce que tu nous dis, mais il te manque une partie de ta théologie. Parce que la Bible a dit, c'est Dieu qui a fait mourir Jésus. C'était dans le plan de Dieu. C'est vrai, vous avez raison. C'est clair. Galates 4:4 nous dit ceci. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, c'est dans le plan de Dieu. L'apôtre Paul a dit la même chose dans 1 Corinthiens 15. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Christ lui-même l'a dit sur le chemin d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ meure? Donc, on n'est pas responsable. C'était le plan de Dieu. John MacArthur dit ceci dans son commentaire de théologie systématique. Dieu n'a pas seulement permis la crucifixion, mais dans sa sagesse, il a ordonné dans le but de faire éclater son honneur et sa gloire. Et c'est absolument vrai. Mais ça n'enlève pas notre responsabilité. Acte 2, 23. Homme israélite, homme d'Oxbury, femme d'Oxbury, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui on a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez. Cet homme, livré selon le dessein arrêté de Dieu, virgule, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Ou est-ce que vous l'avez fait mourir? Les deux! Dans la Bible, il y a des choses qui semblent se contredire, mais ils ne se contredisent pas. Dieu dit, dans mon plan, Christ va mourir pour vos péchés. Mais sauvez-vous pas, vous êtes responsable. Les deux sont vrais. Et il y a des vérités dans la Bible qui semblent se contredire, mais la Bible ne se contredit pas. Quand la Bible a dit, c'est dans le plan de Dieu, et tu es responsable, les deux vérités sont vraies. Et ce matin, je suis, tu es, chacun de nous, on est responsable de la mort de Christ. Autant que Pilate, que Judas, que les Romains, que les Juifs. De la même manière. Et c'est pour ça que la croix est si importante. Christ n'est pas mort pour le monde. Christ est mort pour moi. Il faut prendre la croix d'une manière personnelle. Il faut se l'approprier d'une manière personnelle. Donc, est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Absolument. Mais tu es aussi responsable ce matin. Ce que Dieu nous demande, c'est repens-toi. Reconnais ton péché. Implore la grâce de Dieu. Après, prends ta croix, viens et suis-moi. C'est ça que Dieu nous demande. Et que tu sois riche, pauvre, jeune, vieux, éduqué ou non. Je ne parle pas de toi, Guy, là. De vieux, je parle, là. Voyez-vous, on est tous, chacun de nous, les descendants d'Adam et Ève, ayant été tachés par le péché. Et le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 18, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Christ a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas un choix. Jean-Baptiste, sur le bord du Jourdain, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et je sais que ce n'est pas populaire parce que dans nos églises, bien souvent, maintenant, on ne parle plus de péché. De plus en plus en Amérique du Nord, on a peur de parler du péché. Regardez ce que le pasteur J.C. Riley a dit. Les gens justifiés sont toujours des gens repentants. Et un pécheur pardonné sera toujours un homme qui pleure et déteste ses péchés. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Est-ce qu'on pleure et qu'on déteste nos péchés? Dieu en Christ est prêt à recevoir l'homme rebelle, à lui accorder la paix, s'il ne vient à lui qu'au nom de Christ, aussi méchant qu'il ait pu être. Mais Dieu exige, et exige justement, que les rebelles baissent les bras. Le Seigneur Jésus est prêt à pardonner, soulager, purifier, laver, sanctifié. Mais le Seigneur désire voir un homme ou une femme haïr ses péchés s'il souhaite être pardonné. Le témoignage de la parole de Dieu est clair. Les gens justifiés sont toujours des gens repentants. Sans repentir, il n'y a pas de pardon des péchés. Voyez-vous, la croix couvre tous les péchés de ceux qui se repentent, même les plus rebelles. J'en suis la preuve. Pensez à l'apôtre Paul. Y a-t-il eu des chrétiens? Pourtant, le sang de la croix était assez efficace pour pardonner un tueur de chrétiens. Pensez à John Newton, celui qui a écrit « Amazing Grace ». Il était un capitaine sur des navires d'esclaves. Une grande partie de sa vie a été d'écraser des gens, des esclaves, de vendre des esclaves à travers le monde. Mais la grâce de Christ a été plus grande que le péché de John Newton. Le commandant Michio Fuchida, j'en ai déjà parlé, il y a plusieurs années, quand j'avais prêché sur le pardon. Monsieur Fuchida est le commandant qui était le premier en avant au bombardement de Pearl Harbor. Et pourtant, il a connu la grâce de Christ. Il voulait écrire un livre sur la guerre. Il a écrit son livre après sa conversion. Il a parlé de la croix de Christ. C'est la seule chose qui l'a libéré de ce qui l'écrasait toute sa vie. Christ a dit, « Je ne suis pas venu pour les bien-portants, mais pour les malades. » Et on est tous malades. Il ne faut pas avoir peur de le dire. J'ai été, je vous dirais, pourrais dire, impressionné, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, le président de notre association, Louis Bourque, c'était dans un cours un jour, il a dit ceci. L'Église, c'est pour les malades, dont je suis le plus grand malade. C'est le président de notre association qui a dit ça. L'Église, c'est pour les malades et je suis le plus grand des malades. Mais heureusement, la croix de Christ lave le plus grand des malades et restaure le plus grand des malades. Donc, la conclusion de notre enquête, qui a tué le Seigneur de gloire? Bien, tu as deux choix. Tu peux faire comme Pilate, te laver les mains et dire « Je suis innocent du sang de ce juste ». Tu peux faire ça maintenant. Mais ça ne te donne pas accès au ciel. Ça ne te donne pas aussi accès à la grâce de Dieu. La seule chose que ça va te donner accès, c'est à la colère de Dieu. Ou tu peux reconnaître que tu es coupable. Comme Judas. Comme les Juifs. Comme les soldats romains. Comme Pilate. Te repentir. Et si tu l'as déjà fait, je te dirais, te réjouir de la grâce de Dieu. Christ n'a pas... C'est une grande victoire qui t'a gagnée à la croix. C'est pour ça que pour moi, je trouvais tellement important de prendre le temps de revenir à la base de la croix. La croix est profonde. Et Dieu voulait, dans le prochain message, on va regarder, la croix nous sauve de quoi? Elle nous sauve-tu de vie médiocre, de mariages qui vont mal, de désespoir? De quoi la croix nous sauve? C'est ce qu'on va voir dans le prochain message. Mais j'aimerais terminer avec une belle vérité qui dit ceci. Ce n'est pas parce que Christ est mort que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que Je vais le relire, excusez. Ce n'est pas parce que Christ est mort que Dieu t'aime, mais c'est parce que Dieu t'aime que Christ est mort. Toute une différence, hein? Je vais le relire. Ce n'est pas parce que Christ est mort que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime que Christ est mort. La preuve, Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas parce qu'on était aimable, mais c'est parce que Dieu nous aimait à un tel point qu'il était décidé de laisser son Fils débarquer de son trône et venir mourir sur une croix. Le trône terrestre de Christ, c'était une croix. La chose la plus infâme. J'en ai parlé plus tard, mais je vous mentionnais ce matin. Les barbares, savez-vous pourquoi ils ont inventé la croix? Parce qu'ils disaient, on peint l'homme entre le ciel et la terre. Parce que l'homme qui était mis en croix, on disait qu'il n'était pas digne de marcher sur la terre. Il n'était pas digne d'aller au ciel. Donc, on le pendait entre ciel et terre. Imaginez-vous comment... Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Pendu entre ciel et terre. Les hommes disaient, il n'est pas digne de marcher sur la terre, puis il n'est pas digne d'aller au ciel. Fait qu'on va le mettre entre les deux. Mais Christ, ce qu'il a fait avec la croix, c'est qu'il a rétabli la connexion entre l'homme et Dieu. Quelle belle image! Mais ce n'est pas pour rien que la Bible a dit « Maudit est l'homme qui est pendu sur un arbre. » C'était une malédiction. Celui qui est le Créateur est devenu une malédiction pour qu'on puisse vivre. C'est un privilège qu'on ne peut jamais oublier tout ce que Christ a fait sur la croix. On va juste prier. Père du ciel, encore une fois, comme je veux dire, merci. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous montre que ce que Judas, Seigneur, a fait, c'était horrible de vendre son ami, son maître, avec un baiser, pour le prix d'un esclave. Où les pharisiens, les dirigeants, dans leur jalousie, qui ont fait un coup qui était injuste, on a menti. On a pris des décisions, même si ce n'était pas permis par la loi. Ou Pilate, qui malgré qu'il savait que Christ était non coupable, l'a déclaré coupable à la croix. Mais la parole de Dieu nous dit aussi ce matin que chacun de nous, malgré que c'était dans ton plan, chacun de nous, on est coupable, responsable de la mort de Christ. Oui, merci parce que Christ est mort pour moi, mais il est aussi mort à cause de moi. Seigneur, ma prière, c'est qu'on ne puisse jamais oublier tout ce que Christ a fait à la croix. Et si on est en Christ ce matin, qu'on puisse se réjouir que cette croix n'est pas un malheur, mais une victoire. Victoire sur la mort, victoire sur Satan. Merci parce que cette croix nous donne accès à ton trône. Encore une fois, Seigneur, donne-nous de ne jamais oublier tout ce que Christ a fait sur la croix. Dans le nom de Jésus. Amen.